Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous y sommes à notre rendez-vous avec cette émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée principalement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, on profite aussi par occasion à dénoncer les abus sur l'échelle internationale et vous allez entendre dans cette émission la voix d'une militante altermondialiste de renommée qui ne cache pas son inquiétude d'un abus de force et de pouvoir qui bascule le monde d'aujourd'hui dans une série d'injustices qui va au-delà des continents. Donc la militante en question nous vient de loin avec un discours enflammé de révolte et d'indignation. Elle dénonce ouvertement une politique internationale malmenée. Donc dénoncer, c'est tout ce qui nous reste pour aller en avant. Sinon, on croise les bras et on attend des fins tragiques qui se préparent d'avance. Si vous refusez d'être traité indifféremment, injustement, vous devrez ne pas l'accepter pour autrui. L'autre, ma chère auditrice, mon cher auditeur, c'est vous-même, c'est votre image plaquée. Mais les circonstances ont fait que vous n'avez pas le même parcours. Dénoncer, c'est guider l'autre à retrouver ce chemin de dignité et de respect qui nous unissent tous. Au micro avec vous ce matin, Adjazitouni, un militant d'Image, un mouvement indépendant en défense des droits de la personne, mandaté pour faire la surveillance civile des institutions judiciaires. Je vous le cache pas, nous sommes encore loin à remplir cette tâche puisque vous êtes absent de la scène. Nous avons besoin de chacun de vous, chers citoyens, pour lever ce défi de taille et se prononcer. Nous cherchons des militants et des militantes qui peuvent consacrer à cette mission un peu de leur temps. Nous invitons en parallèle celles et ceux qui sont victimes ou témoins d'abus de pouvoir ou d'injustice de participer à nos émissions afin d'éclairer et d'éviter à d'autres telles situations tragiques parfois. Pour nous rejoindre, veuillez composer le 514-273-4302. Donc je répète, le 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@commercialmage-quebec.com info@commercialmage-quebec.com pardon. Donc restez avec nous après notre thème musical. Nous reviendrons avec deux interventions. La première est avec Madame Aminata Traoui, militante engagée dans le combat contre le libéralisme. Elle avait occupé le poste de ministre de la Culture et du Tourisme dans son pays d'origine, le Mali. En deuxième partie, nous allons entendre M. Charles Lemieux, militant et membre des collectifs Échec à la guerre. Il est professeur au Cégep Marie-Victorin, où il enseigne présentement depuis une dizaine d'années. Donc, il nous révélera son inquiétude vis-à-vis à notre politique canadienne étrangère. Restez à l'écoute.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Bas-fond, la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène, un baf obscène est à la lune.
Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Donc vous savez que notre monde aujourd'hui est devenu tellement petit qu'on arrive à suivre et constater plus facilement son déséquilibre. Autrement dit, les pays du Sud et leur fardeau de pauvreté est visiblement clair dans nos écrans et les pays du Nord visiblement riches dans notre vie quotidienne. Donc j'espère aussi que vous avez tous compris que cette théorie qui fait que les pays du Nord travaillent d'arrache-pied pour libérer les pays pauvres de leur pauvreté, pardon, n'est qu'une foutaise qui endorme les esprits que de les réveiller. L'esprit colonial voyage à travers les temps avec des nouvelles idéologies modernes et davantage. Donc il marque des points décevants. Je citerai l'Afrique, bien sûr, comme le meilleur exemple de cette présentation, puisque ma première entrevue qui sera diffusée tout à l'heure sera avec Madame Aminata Traoré, une Africaine du berceau qui va mieux nous illustrer cette situation décevante du Nord et du Sud. D'ailleurs, dans son livre « L'Afrique humiliée » paru en 2008 chez Fayard, Madame Aminata Traoré dénonce en détail l'esprit et les crimes coloniaux anciens et nouveaux. Donc elle dessine les puissants de cet univers en évolution reculant. Selon cette grande dame, le monde marche à l'envers et combien à la raison. Encore dans un second livre intitulé « Le viol imaginaire » paru en 2002, Madame Traoré responsabilise les puissants de ce monde en disant, et je cite, « Depuis plus de 40 ans, l'Afrique cherche sa voie, mais en vain. Elle est dans l'impasse. Les violences de l'histoire ayant fait des vainqueurs et des vaincus, des gagnants et des perdants, les rapports entre nations riches et nations pauvres demeurent des rapports de domination qui se perpétuent à travers des mots clés qui ne sont que mots d'ordre piliers et marginalisés. L'Afrique est invitée par les maîtres du monde à se penser pauvre, à se comporter en région pauvre. Or, l'Afrique est la seule à détenir les remèdes à ces maux. » Avec cette dernière phrase, elle rejoint sa collègue de combat, Madame Milali Joya, ex-députée afghane qui en tournée ici au Québec il y a quelques mois. Elle avait invité le peuple québécois de mettre de la pression sur le gouvernement canadien pour retirer ses troupes militaires de l'Afghanistan. Sa phrase va dans le même sens, le peuple afghan est le propre artisan de sa liberté. Donc envahir les peuples au nom de la liberté est une grande insulte à l'intelligence humaine, selon Madame Amina Traoré, mais les conservateurs d'Ottawa ne sont pas prêts à comprendre ce message aussi clair qu'il est. Encore plus grave, ils prennent ses propres citoyens d'imbéciles. Écoutez cette dernière, le gouvernement Harper envisage d'accepter une proposition qui maintiendrait des centaines de soldats canadiens en Afghanistan jusqu'à en 2014. Envisage d'accepter la proposition. Pour le pauvre Harper, il s'agit d'une proposition qu'on lui a proposée et pourtant la carte est jouée depuis très longtemps. Et aussi longtemps que le peuple s'endormira. Voilà, je dirais plutôt à Madame Amina Traoré, vous voyez la grandeur de l'insulte et nous ne sommes pas non plus épargnés. Ce matin, vous avez tous lu dans les journaux ces grands titres, les soldats canadiens resteront en Afghanistan jusqu'en 2014. Stephen Harper, finalement, le pauvre, a accepté la proposition de maintenir les soldats canadiens pour quelques années de plus. Attention, ce que vous devez retenir, c'est que l'engagement militaire en Afghanistan, dans l'agenda des conservateurs, n'a aucune date de retrait. Conclusion, je vous laisse, chers auditrices, chers auditeurs, avec cette figure du monde intellectuel et politique africain, Aminata Traoré, que nous avons rencontrée dans les bureaux de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale la semaine dernière dans le cadre de sa visite aux journées québécoises de la solidarité internationale qui se déroule du 3 au 13 de ce mois de novembre. Écoutons-la.
Donc voilà, donc bonjour. Voulez-vous le dire, le peuple québécois, ils ne vous connaissent pas. Voulez-vous nous dire deux mots sur votre engagement social et votre implication, vos implications?
Moi, je...
Le nom d'abord. Et...
Je suis Aminata Traoré. Je suis essayiste. J'ai été ministre de la Culture et du Tourisme. Et j'ai publié 4 essais sur l'Afrique dans la globalisation.
Et alors, vous êtes plus spécialisé dans l'Afrique ou interne?
Le monde, je pense. L'Afrique, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que l'Afrique n'est pas une planète à part. C'est-à-dire que quand vous avez compris le problème des Canadiens, vous avez tout compris, puisque c'est le même modèle économique qui sévit partout.
Voilà. Et votre engagement, qu'est-ce qui vous a amené à mener cette lutte contre l'inégalité, si je ne me trompe pas?
Moi, je crois que je suis né dans un monde et à l'époque coloniale, je suis tombé dans l'inégalité en naissant dans une colonie française qui s'appelait le Soudan français. Donc, adolescente, au moment de l'accession de ce pays à l'indépendance, j'ai espéré, comme tout le monde, qu'on allait voir le bout du tunnel, que nous étions souverains économiquement, politiquement, et qu'on allait enfin avoir notre place au soleil. Mais nous nous rendons compte, 50 ans après, que nous nous sommes trompés de développement, que, en réalité, ce qui se passe, en tout cas aujourd'hui, qu'on appelle la globalisation, est une guerre. Une guerre économique et déclarée aux pauvres à leur insu, et que les gens, la situation est de plus en plus chaotique, mais que ceux qui dominent le monde, les maîtres de ce système chaotique, et ne disent pas la vérité. On ne dit pas la vérité aux Québécois, on ne le dit pas davantage aux Maliens.
Oui. Mais si j'ai bien compris de votre première intervention, ça veut dire que le fossé, il est en train de s'élargir de plus en plus. Comme ça, vous avez constaté depuis 50 ans le fossé entre les pauvres et les riches ou...
Bien sûr, bien sûr. Oui. Ce qu'on a appelé le développement, c'est, disons, c'est l'occidentalisation du monde. Oui. Puisque c'est des nations sûrs de leurs normes et de leurs valeurs, qui vont à la conquête de la planète en prétendant développer les autres. Et par développement, ils entendent la transformation matérielle des normes et des valeurs qui servent leurs intérêts. On n'est jamais sorti de ce schéma. Donc les puissances colonisatrices, et la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et tous les autres, et ont tout le long du siècle dernier, au nom de la civilisation, et ont assujetti des pays, les ont pillés, ça c'est connu, tout le monde le sait. C'est l'histoire. Et quand il y a 50 ans, exactement 50 ans, et ces pays espéraient sortir de cette situation, on est entré dans la guerre, on était déjà dans la guerre froide et nous sommes venus, nous sommes devenus un champ de bataille par pays africains interposés. Donc les deux blocs se disputaient le terrain, mais nous-mêmes on était les uns avec un bloc, les autres avec l'autre bloc. Et ensuite, après la chute du mur de Berlin, on nous a dit la guerre froide est terminée, maintenant c'est le marché. C'est le marché mondial. Bon, on est tous pareils. Et le Canada peut se battre, le Mali doit pouvoir se battre sur le même pied d'égalité que le Canada, les États-Unis, ainsi de suite. Ce qui est pure folie.
Ouais. Est-ce que j'ai bien compris, vous êtes en train de le dire, que l'histoire se répète, si je reviens à notre siècle aujourd'hui, l'invasion, votre réaction à l'invasion de l'Irak, par exemple, en 2003, hein, c'était quoi votre réaction? Comment vous avez réagi à cette agression? Est-ce que vous pensez, les gens ils disent une guerre, moi je pense que c'est une agression, c'est une invasion, il n'y a pas de guerre, parce que quand vous l'avez souligné avant qu'on rentre sur les ondes, vous m'avez dit qu'il y a une inégalité hein, de force et tout.
Hein. Mais bien sûr, les rapports de force sont totalement déséquilibrés.
On ne parle pas de guerre, on parle d'agression.
Oui, de l'agression, c'est-à-dire qu'on vous déclare la guerre, c'est lui qui déclare la guerre et c'est qui pense qu'il y a une situation et cette fausse histoire d'armes de destruction massive que personne n'a jamais trouvée mais qui ne nous a pas permis et qui n'empêche qu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont péri. Oui. Et je trouve que ça c'est l'un des pires crimes de ce siècle.
Et
bien sûr. Donc, et l'Afghanistan, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on regarde, les personnes ordinaires regardent ces images, on se dit, on regarde les distances, on se dit, mais qu'est-ce que ces peuples ont fait pour mériter que ces nations leur infligent cette punition? C'est une punition.
C'est-à-dire parce que si vous avez bien constaté, peut-être que vous êtes mieux placé que moi, pour dire qu'en Irak, présentement, après 7 ans de guerre, même maintenant, que les Canadiens, les États-Unis, les forces américaines, ils se retirent, comment les terrains ils ont laissé derrière eux? Quel genre de terrain qu'ils ont laissé derrière eux?
Mais explosifs. Ouais. C'est-à-dire que moi, je crois que les explosions qu'on voit de part et d'autre, et c'est l'expression d'une situation et sociale et politique absolument lamentable. Ouais. Parce que les efforts qu'ils prétendent de démocratisation, parce qu'ils croient que de manière artificielle, on peut construire comme ça, et sur un tas de ruines, on peut sortir une classe dirigeante qui le déclare démocratique juste parce qu'il y a eu des élections.
Oui.
Et c'est tout le monde. Moi, ma douleur aujourd'hui, c'est autour de ce mythe des élections. À l'heure où je vous parle, on a organisé des élections en Côte d'Ivoire, on attend des élections en Guinée, des élections ont eu lieu en Tanzanie. L'Afrique vit au rythme et à l'heure d'élection et il donne l'impression au peuple dominé que le seul fait de glisser un bulletin de vote dans l'urne traduit la démocratie.
Ouais.
Mais on voit que quand il s'agit des nations riches elles-mêmes, il y a des vrais enjeux. Les candidats qui vont à ces élections se défient mutuellement autour des questions essentielles qui sont des questions d'emploi, de dette, de commerce, de contrôle des richesses. Ce sont ces mêmes enjeux. Il s'agit du pétrole irakien. Il s'agit des immenses richesses du sol et du sous-sol africain. Mais jamais, ils n'ont pas l'honnêteté, les puissants de ce monde n'ont pas l'honnêteté de déclarer clairement que nos multinationales ont besoin d'exploiter les ressources de telle et telle région. On prétend qu'on va nous apporter le développement, la démocratie, et que si ça ne marche pas, parce que nous ne savons pas gouverner. Mais la corruption, l'argent de la corruption vient d'où? Les gens qui sont victimes de ces corruptions avaient la capacité de contrôler leurs dirigeants. Alors donc, c'est Nicolas Sarkozy qui parle de décomplexer et les relations. Moi, je suis persuadé que nous sommes entrés dans une phase où ils ont effectivement décomplexé les attaques. on peut se permettre d'attaquer, de piller et se justifier.
Au nom de...
Oui, au nom de, du droit, au nom de la démocratie, au nom de la gouvernance. Ça fait que tous ces idéaux ont été vidés de leur sens.
Oui.
Les peuples ont du mal aujourd'hui à croire et à ces notions parce que on sera en raison du double langage des puissants. On ne peut pas, quand Bush a détruit et l'Irak et à ce point et un tel pays à ce point et qu'aujourd'hui il circule librement, il paraît qu'il va même créer une fondation, c'est-à-dire on se demande dans quel monde on est.
On se moque du monde,
mais bien sûr,
mais ça, ce qui me ramène à dire, c'est-à-dire que les États-Unis, ils n'ont jamais la Maison Blanche, ils n'ont jamais obtenu l'objectif, il n'y avait pas d'objectif derrière ça, c'est-à-dire il n'y a pas d'objectif de démocratie, de remettre la vie, redonner une autre face.
Mais non,
c'est une hypocrisie totale.
Oui, il fallait enlever un homme. Bon, il était ce qu'il était. Et il dérange. Il a été un allié, maintenant il dérange, il faut absolument l'enlever. Et aussi parce que la survie, le mode de vie que ces nations riches se sont donné et qui fonctionnent nécessairement et qui carburent au pétrole. Ils ont besoin des richesses de la terre pour s'assurer que demain, après-demain, ils ne manqueront de rien pendant que ces peuples manquent de tout. Donc au nom de ces intérêts vitaux pour eux, toutes les guerres sont permises.
Tout à fait. Maintenant, ce qui nous ramène un temps un peu plus grave, ce qui intéresse un petit peu les Canadiens et les Québécois en particulier, l'engagement maintenant du Canada, l'engagement militaire du Canada en Afghanistan. Est-ce que c'est le même modèle, c'est le même processus qui suit et pourquoi, à votre avis, le Canada sont obligés de suivre un petit peu le modèle des Américains?
Mais parce que c'est un club. C'est un club, les membres du G8, et ils font semblant de croire aux mêmes vérités. Ouais. C'est des alliés. Qu'on le veuille ou non, c'est des alliés et ils ont mis le doigt dans l'engrenage.
Oui.
Ils sont obligés d'être solidaires.
C'est la phrase, si vous permettez, la phrase de Bush, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, c'est ça ce qui unit le G8 ou...
Oui, mais je pense qu'au niveau du G8, il y a le marché les lie.
Oui.
Le marché les lie et je te soutiens, tu me soutiens. On est entre soi, entre égaux.
Oui.
Alors je ne pense pas que les pays dominés, pillés, et c'est les dirigeants de ces pays qui se trompent d'alliés. Parce que quand je pense qu'ils, par tous les moyens, et ils vont porter au pouvoir et des dirigeants qui sont à leur solde, bon, Hamid Karzai, qu'ils ont fabriqué,
et aujourd'hui, qui
commence à dire bon, full stop, ça suffit, et pour les sociétés, vos sociétés, de sécurité, et tous ces instruments de la sécurité, entre guillemets, il se rend parfaitement compte du fait qu'il est un otage, lui. Il est un otage dans son pays. Donc, mais il n'a pas les coups des franges parce qu'il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent et que cet argent vienne de l'Iran ou d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. On vit une période absolument surréaliste. Il faut voir tout ça parce que chaque aspect de cette évolution et de la politique internationale vous en dit long sur l'état du monde, l'état réel du monde.
Oui, mais ce qui dérange un peu, si vous me permettez, c'est que maintenant on parle de le Canada et quand même il porte normalement, il reflète une image de la démocratie et tout. Qu'est-ce que vous disiez? Je vous dis qu'il y a 70% des Canadiens qui sont contre l'engagement militaire et cette position du gouvernement conservateur ici, elle poursuit son travail. C'est-à-dire que l'opinion publique ici, la démocratie au Canada, ça veut dire quoi, vous?
Moi, ça m'a jamais rien dit, la démocratie.
Le peuple, il y a 70% du peuple qui sort dans les rues et il dit non à la guerre et on continue sur la même voie.
Mais je veux juste vous dire que vraiment, je ne me fais pas d'illusions sur leur rhétorique sur la démocratie.
Ouais.
Il n'y a pas que le Canada. Le Canada se comporte comme ça. Si vous avez suivi les événements en France, et 70% des Français étaient dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la réforme de la retraite, mais c'est quand même passé. Donc, toutes les marches qu'il y a eu du temps de Tony Blair contre la guerre en Irak, ça n'a pas empêché la guerre. Alors donc moi, les leçons de démocratie que les nantis de ce monde sont prêts à donner aux autres, oui. moi je n'en crois pas un traître mot. Il n'y a pas de démocratie sans les peuples.
Oui.
Et toutes ces initiatives se font contre les peuples.
D'accord.
Alors moi, ils ont vidé, ils ont discrédité et un idéal. Mais c'est au peuple de les rappeler à l'ordre. C'est au peuple, justement. Parce que chaque coup que les gens prennent au oui. sud comme au nord, il sert de leçon. Maintenant, nous essayons de capitaliser.
Oui.
Et si moi je suis ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes persuadés que les mêmes douleurs sont infligées aux gens ici et là-bas. Et que c'est par, à travers ce type de dialogue, que les gens comprendront que les Africains n'ont pas démérité, que l'Afrique n'est pas la dernière de la terre, mais qu'elle est une victime de tout temps, de l'esclavage à ce jour, et qu'on a payé cher pour ce modèle. L'accumulation primitive, c'est-à-dire le capital expansionniste aujourd'hui, s'est constitué en partie à partir du travail des Noirs dans le cadre de la traite négrière aux États-Unis d'Amérique.
Oui.
Donc la force de travail, la sueur d'autres peuples ont considérablement contribué à créer cette richesse qui se gère aujourd'hui à partir de sommets où ils se rencontrent entre égaux pour donner des leçons de démocratie, de gouvernance aux autres.
Mais madame, vous avez bien tracé, dessiné un tableau noir que je partage l'opinion. Mais est-ce que pensez-vous qu'il y a derrière, à la fin du tunnel, il y a de la lumière ? Est-ce qu'il y aura-t-il un espoir de tout à un moment donné que les gens reviennent à la raison ?
Écoutez, aujourd'hui, dans tous les pays, y compris les plus modestes, il s'est constitué deux catégories de dirigeants. Ça existait toujours, mais aujourd'hui, les contours sont clairs. C'est que vous avez des néoconservateurs qui sont prêts à défendre bec et ongle et une certaine oligarchie et qui sont prêts à faire peur au peuple en disant, en leur désignant constamment un ennemi. Et hier, c'était le communisme, aujourd'hui, c'est l'islam, et les affaires d'Al-Qaïda
ah oui.
et viennent et arranger tout cela. Moi, je viens d'une région du monde où on avait toutes sortes de problèmes, sauf le problème du terrorisme. Mais aujourd'hui, avec Al-Qaïda au Maghreb
oui.
et les enlèvements et, disons, les prises d'otages, on nous oblige, nous, aujourd'hui, à nous impliquer dans la lutte contre le terrorisme. Moi, j'ai dit, mais attendez, ça se fait en amont. On désamorce les bombes en amont.
Oui.
On doit donner la possibilité à chaque nation de se prendre en charge, de penser son destin, de transformer ses richesses et d'en profiter. Mais quand des nations mieux armées viennent surtout en coalition et décident d'envoyer leurs multinationales et ponctionner l'uranium, le pétrole, le coltan, les richesses pour s'enrichir, parce qu'on est dans une logique d'accumulation de richesses,
oui.
une accumulation sans limite, qui produit des dégâts considérables, non seulement au niveau des humains, mais des écosystèmes qui n'en peuvent plus. Mais tous ces problèmes sont aujourd'hui sur la table. Les questions de paix et de sécurité. Mais tout va dépendre des rapports de force. Or, l'offensive néolibérale aujourd'hui consiste à diaboliser les résistances, parce que quand on n'est pas d'accord avec le marché, quand on n'est pas d'accord avec leur conception du marché,
oui.
parce qu'ils n'ont pas inventé le marché, ils ont inventé un marché de dupes qui consiste à dire venez tous sur le marché, mais sur ce marché, nous décidons du prix. Nous allons faire de telle sorte que ceux qui l'organisent localement soient partagent notre conception du monde.
Vos émissions préférées sont de retour à Radio Centre-Ville. Au Bel Âge traite des préoccupations des aînés les mardis de 10h à 11h. Tout de suite après, de 11h à 11h30, Je vote pour la science vous informe de l'actualité scientifique. Portrait dense est de retour les jeudis de 13h à 13h30. Découvrez nos nouvelles émissions. En bas, à gauche, fait le tour de l'actualité internationale les mardis de 9h à 10h. Bouffée d'air frais vous parle d'horticulture les mardis de 13h à 14h. Voix francophone, les vendredis de 11h à 11h30, jette un coup d'œil sur l'actualité et la musique francophone. Écoutez-nous au 102,3 FM ou sur notre site radiocentreville.com.
Parrainage Civique Montréal, organisme qui favorise l'intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle à un urgent besoin d'hommes bénévoles de plus de 18 ans pour vivre une riche amitié avec de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Une rencontre mensuelle, seulement 5 heures par mois de votre temps pour des activités sportives, culturelles ou de loisirs. Devenez bénévole à Parrainage Civique Montréal. 514-843-8813. 843-8813. Ou visitez le www.parrainagemontréal.org.
Travailler en français, c'est se respecter. C'est un droit. C'est créer de l'emploi. C'est payant.
Moi, je travaille en français.
Je travaille en français.
Travailler en français, c'est se faire respecter. Un message d'Impératif français.
Depuis 35 ans, nous permettons aux Montréalais et Montréalaises de toute origine d'échanger et de construire sur ce qui les unit. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc voilà, rebonjour chères auditrices et chers auditeurs. Rétablir et construire avec des mains entachées de sang, c'est détruire en définitive. Donc le Canada pourrait rester en Afghanistan jusqu'en 2014. Cette nouvelle qui est apparue dans les journaux dernièrement et s'est officialisée ce matin n'a apparemment surpris personne. Et encore moins le collectif Échec de la guerre qui tente de nous sensibiliser davantage afin que tous les citoyens qui s'opposent à toute forme d'agression militaire, commençons bien sûr par notre engagement militaire en Afghanistan, une agression gratuite et injuste qui n'apportera aucun grain historique, sinon un héritage de honte quand les eaux deviendront plus claires. L'ex-députée afghane Madame Malali Joya est venue nous rappeler que le peuple afghan est le seul artisan de sa libération. Toute autre ingérence politique aux militaires, nous dit Madame Malali, est une atteinte aux droits fondamentaux de son peuple et à sa souveraineté. Donc hier, le Premier ministre Stephen Harper a annoncé en marge du sommet des G20 à Séoul que le Canada maintiendra ses troupes en Afghanistan jusqu'en 2014. Il avait préféré attendre cette occasion pour offrir aux membres des G20 un bouquet de fleurs empoisonné par le refus de la grande majorité du peuple canadien et encore davantage le peuple québécois. Donc vous serez étonné d'entendre la plus grande majorité du peuple afghan qui demande à tous les troupes étrangères de se retirer de leur pays. Ils préfèrent mourir que cette présence étrangère qui fait plus de mal que de bien. Donc nous avons eu la chance de discuter de ce sujet avec des militants du premier rang et porte-parole comme M. Gérard Larose, chef du Conseil de la souveraineté du Québec, Mme Suzanne Loisel, directrice de l'entraide missionnaire, M. Daniel Gingras, membre du collectif Échec à la guerre et d'autres bien sûr. Tous comme les 70% des Québécois qui s'opposent à cette politique étrangère menée par les conservateurs d'Ottawa, j'aimerais vous faire entendre aujourd'hui cet entretien que nous avons eu cette semaine aussi avec M. Charles Mieux, professeur au Cégep Marie-Victorin, que nous avons rencontré sur le lieu de son travail. M. Lemieux, militant engagé et membre organisateur actif du collectif Échec à la guerre, va répondre à nos questions avec beaucoup de précision. M. Lemieux est bouleversé par ces prises de décision qui se font à l'encontre de toute autre volonté. Écoutons-le bien, puisque nos enfants, dès l'âge de la maternelle, sont déjà ciblés par les doigts des conservateurs. Donc voilà, bonjour Monsieur Charles Lemieux, vous êtes professeur depuis combien d'années?
Au Cégep Marie-Victorin, ici, oui. Depuis, c'est ma 11e année.
Vous enseignez depuis combien d'années?
Depuis janvier 2000.
D'abord, permettez-moi de vous demander pourquoi vous intéressez à la politique étrangère et en particulier ces dernières années.
Ben, en fait, je dirais que cet intérêt pour les questions, ben, non seulement la politique étrangère, mais en fait toutes ces questions de politique internationale, oui, m'intéresse depuis, et là vous m'amenez loin dans le temps, mais depuis mon cégep. Et donc je me souviens que mes premières manifestations contre la guerre c'était en 82, alors qu'on manifestait contre la bombe à neutrons à l'époque.
Oui.
Et ensuite, alors ça s'est enfilé, manifestation contre l'avenue de Ronald Reagan dans les années 80 à Ottawa. Oui. Bref, alors j'étais parti du mouvement étudiant et je dirais que naturellement, ça m'a amené à...
Parce que la question, c'était vraiment, vous êtes quelqu'un, vous êtes un professeur, vous avez une situation bien, vous avez la paix, pourquoi vous allez vraiment vous intéresser à devenir militant comme ça et peut-être que ça peut vous embêter à la longueur, je ne me trompe pas.
Ben non, enfin, moi je considère que...
Votre engagement,
c'est... Oui, ben c'est ça, c'est
un engagement.
C'est une façon de rendre la vie... De rendre la vie vivante, quoi. Alors, et d'essayer de faire de modestes contributions avec d'autres aux idéaux qui nous qui m'animent, enfin, la justice sociale, la paix, la démocratie. Donc, moi, je trouve que ces questions-là, ces idéaux-là, doivent être portées par des actions concrètes au quotidien. On ne peut pas simplement en parler autour d'un verre. Il faut agir. Et il faut, comme disait Léa Robach, que j'aime bien, une militante, une grande femme du Québec, une militante syndicaliste communiste à l'époque, qui disait il faut faire quelque chose.
Bravo.
Il faut faire quelque chose.
Excellent. Donc, écoutez, je n'ai pas envie de vous reposer les questions que j'ai déjà posées à vos collègues. Et je rentre directement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Vous la connaissez, j'imagine, Madame Malali Joya. J'ai toujours de la difficulté à prononcer son nom. Elle est ex-députée afghane. De passage à Montréal, il y a quelques mois, elle nous avait expliqué que pour que l'OTAN gagne cette guerre en Afghanistan, les alliés, en outre le Canada, ils avaient signé un pacte avec les seigneurs de la guerre et non pas avec le peuple. Donc ces seigneurs de la guerre sont principalement composés de trafiquants et de vendeurs de drogue. Toujours selon la version de Mme Malali, ils sont des photocopies des talibans, mais en pire. Donc les Américains et les Canadiens travaillent étroitement avec ces troupes qui gouverne par la force et la terreur. Donc, elle lance un appel au peuple américain et canadien de dire à leur gouvernement de cesser de soutenir et de couvrir un régime de seigneurs de guerre et d'extrémistes. Elle ajoute aussi, si l'OTAN veut nous aider, il faut désarmer ses troupes et remettre le pouvoir au peuple qui est seul et l'artisan de sa propre liberté. Donc, Monsieur Charles Lemieux, que pensez-vous de ces révélations et aux solutions que Mme Mali propose ou avance?
Alors, donc, Mme Joya, donc Malalai Joya, effectivement, on la connaît bien au collectif parce qu'on l'avait invitée au moment du lancement de son livre, en anglais à l'époque, qui a été traduit et que j'invite vos auditeurs, auditrices à se procurer ou à aller chercher en bibliothèque, qui s'appelle « Au nom de mon peuple ». Donc, elle a écrit pour, dans lequel elle traduit très bien à la fois sa propre trajectoire et où elle développe, en fait, la position que vous venez d'évoquer. On l'avait reçue donc en novembre 2008 et elle est revenue, vous le dites très bien, il y a quelques semaines. Ce qui nous rejoint beaucoup au collectif dans la position de Mme Joya, c'est une position, je dirais, fondamentale de défense de la souveraineté des peuples. Et finalement, quand elle interpelle les peuples canadiens, québécois, américains, c'est que elle réfléchit justement dans une perspective de peuple à peuple. Hein?
Oui.
Et, donc, c'est-à-dire, ce sont les peuples qui vont régler ces problèmes.
Entre eux, si vous voulez.
Oui.
Il ne faut pas que la liberté vienne d'extérieur, c'est ce que vous dites.
Ben, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup cet argument-là ici. On le lisait encore aujourd'hui dans les journaux de ce matin, où on dit. Le collectif milite depuis des années pour un retrait immédiat des troupes étrangères de l'OTAN et du Canada de l'Afghanistan.
Oui.
Un des arguments qui est pro-guerre ou les va-t-en-guerre nous servent, c'est « Ah, ben, c'est pas responsable. » Parce que si on se retire,
oui.
et là maintenant, on apprend que le Canada il se prépare à prolonger la présence.
Oui.
Et cet argument-là va être servi à nouveau. C'est-à-dire que si on se retire, ça va être la guerre civile, ça serait pas responsable.
Oui.
Ce que Mme Joya nous dit, c'est quoi? C'est les peuples règlent leurs problèmes eux-mêmes.
Est-ce que vous partagez les...
Oui, tout à fait, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que, et d'ailleurs au sommet, la conférence d'ouverture de Jean Bricmont porte essentiellement sur le cœur de cette question-là, c'est-à-dire la défense de la souveraineté nationale des peuples, qui est bafouée actuellement au nom de toutes sortes de prétextes. On l'a vu en Afghanistan, une guerre supposément pour défendre le droit des femmes, une guerre pour apporter la démocratie. En fait, toute la vision colonialiste, impérialiste qu'on connaît, qui nous est resservie de différentes manières, mais essentiellement, c'est la même rhétorique. Et Mme Joya, son livre est formidable autour de ça. Elle dit quoi? Elle dit, c'est vrai que les femmes afghanes ont des problèmes, ont des luttes à mener, comme les femmes du Québec, du Canada, des États-Unis, partout dans le monde ont les luttes à mener. Et elle nous dit, c'est pas les armées étrangères, et c'est pas en bombardant les femmes, les enfants, les villages que... C'est une position, je dirais, de principe. Et voilà, donc c'est pour ça que ça nous rejoint.
Mais cette image, excuse-moi, M. Charles, est-ce que cette image-là ne nous reflète pas un petit peu la situation qui était déjà convue présentement de l'Irak aussi?
Ben, tout à fait, c'est la même logique. C'est-à-dire, ce qui est à l'œuvre actuellement, les visées principalement des États-Unis, on ne se cachera pas que les États-Unis sont depuis les dernières années, une puissance militaire sans précédent dans l'histoire, et Barack Obama ou pas, la politique américaine, c'est la même.
C'est-à-dire mais le retrait, si je parle de retrait, si le retrait, par exemple, américain maintenant, on ne va pas laisser une terre désastreuse.
C'est-à-dire que d'abord sur l'Irak, il faut quand même apporter des nuances. Là. On a annoncé le retrait des troupes américaines, mais la réalité, c'est qu'au moment où on se parle, il y a encore 50 000 soldats américains, et les Américains ont installé là la plus grosse base militaire, je pense, une de leurs plus grosses bases militaires en Irak. Et l'autre chose, c'est que ce qu'ils ont fait là-bas, ils ont attisé aussi les tensions entre les différentes ethnies là-bas. Oui. C'est une politique divide imperia, divisé pour régner, ça fait partie des stratégies de longue date des occupants. Oui. Alors, mais la position de principe ici que Mme Joya reprend, c'est ce sont les peuples qui doivent régler leurs propres affaires. Et cette vision que l'Occident, le Canada doivent voler avec les armes à la main s'il le faut pour aider ces pauvres peuples finalement barbares et ignorants. Alors ça, c'est la rhétorique coloniale. On n'invente rien. Mais on veut nous faire... on essaie de nous convaincre avec ce genre d'arguments.
Oui. Avant de passer à la deuxième partie et avant la pause musicale, j'aimerais bien vous poser cette dernière question. Pourquoi elle fait appel au public américain et canadien et non pas au gouvernement?
Je dirais, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'elle, de toute évidence, elle fait la même lecture que nous. Elle est venue ici au Canada, elle connaît très bien...
Elle est consciente...
Elle connaît la politique canadienne, elle connaît la rhétorique, et elle a conclu que c'est pas en faisant des demandes au gouvernement canadien que les choses vont se... Et là aussi, ça rejoint sa conception du peuple souverain, c'est-à-dire que la majorité, une très très forte majorité des Québécois, Québécoises s'opposent à cette guerre-là depuis le tout début. Une majorité des Canadiens, Canadiennes aussi. Et malgré la volonté populaire qui est clairement exprimée, on maintient les troupes. Et là, maintenant, on nous prépare un scénario pour le prolonger. Alors, ce qu'elle nous dit, finalement, c'est à nous à faire en sorte que ce qu'on veut soit ce qui soit.
C'est un rappel de sa part ou elle nous demande de se réveiller ou...
C'est-à-dire que moi, ce que j'aime de sa position, puis dans son livre, elle l'articule très bien, c'est qu'elle n'a pas non plus la vision que le support qu'elle nous demande, c'est de mener notre propre bataille ici. Et quelle est la bataille qu'on peut faire? C'est la bataille d'exiger le retrait des troupes canadiennes. Elle ne nous demande pas d'aller en Afghanistan pour faire ceci, cela. Elle ne fait pas ça. Elle dit, si vous voulez nous aider, la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de faire en sorte que vos soldats quittent notre pays. Voilà.
Elle demande au peuple de faire la pression sur le gouvernement pour qu'il cesse.
Tout à fait. Donc la question devient, comment on va s'organiser pour faire en sorte que notre volonté et qu'on puisse répondre concrètement à cet appel.
Merci le mieux.
Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Que nos mains ne tiennent plus ensemble? Comment si je tremble un peu. Est-ce que je ne vais plus attendre? Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver? Puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez, viens.
Donc, rebonjour, monsieur Charles Mieux, professeur au Cégep Marie-Victorin. On reprend donc la discussion. Donc, vous êtes dans l'enseignement et je profite de vous poser cette question qui dérange énormément. Les campagnes de recrutement des forces canadiennes. Nous assistons, et particulièrement ces dernières années, une vaste campagne jamais vue. L'armée canadienne envahit les universités, les cégeps, les écoles secondaires et même les écoles primaires. Elle cible les jeunes de familles les plus défavorisées, les régions aussi où le taux de chômage est trop élevé, pour les piéger, si vous me permettez le mot, en leur offrant des salaires, de fortune et des formations gratuites. Enfin, toute l'hypocrisie impossible pour les utiliser, cher Akanon. Autant que professeur et enseignant, pensez-vous que vous avez une responsabilité envers tout ça?
Bah, tout à fait. Et ce que vous venez d'évoquer à grands traits, vous dites, si je peux utiliser le mot
piégé,
le mot est presque faible parce que on a pu documenter, et quand je dis le on, c'est au collectif qu'on travaille sur ce dossier-là. Il y a aussi le Centre de ressources sur la non-violence qui a travaillé à appuyer une campagne de contre le recrutement militaire qui se mène actuellement dans tout le Québec. Mais on a eu accès à des documents de la Défense nationale qui ont engagé des spécialistes de marketing, de psychologues et tout ce que vous voulez pour étudier dans le détail comment cibler les jeunes visés. Et ce que vous avez évoqué, non seulement c'est vrai, mais c'est documenté et c'est planifié de cette façon-là. Alors, par exemple, les jeunes chômeurs sont ciblés de façon particulière. Vos auditeurs et auditrices n'ont qu'à mettre les pieds dans un centre d'emploi, ils vont voir comment on met bien en évidence la carrière militaire, en guillemets. Les jeunes des minorités culturelles, qui sont souvent prises avec des taux de chômage importants, sont aussi ciblés. Les autochtones sont une cible particulière actuellement. Les femmes, au nom de l'égalité des femmes dans les métiers non traditionnels et tout. Donc, ce que vous dites, c'est vraiment... Et j'ai eu l'occasion avec... avec des militants là, de moi-même de faire une entrevue avec dans un centre de recrutement pour voir un petit peu de visu comment ça se passait. Donc, j'ai fait un petit jeu de rôle là, et on a vu comment le recruteur appliquait des techniques. Ces gens-là sont pas des amateurs. Ils sont formés justement pour faire en sorte que le jeune signe le formulaire qu'on lui remet.
Mais maintenant,
si vous me permettez, la responsabilité que vous évoquez. Alors, moi, je suis parti d'un syndicat qui s'appelle la Fédération nationale des enseignants du Québec, qui fait partie de la CSN. Et la fédération fait partie d'une vaste coalition qui a été mise sur pied il y a quelques mois maintenant, qui regroupe d'autres syndicats enseignants, des associations étudiantes. Et la coalition a l'objectif d'empêcher les recruteurs de l'armée d'utiliser nos écoles. Je ne dis pas les écoles,
nos écoles.
Moi, je suis un parent, monsieur.
Tout à fait.
Et j'ai un ami dont le fils, à l'école où mon fils fréquentait, mon ami a vécu ça, là, d'avoir à gérer son fils. Il lui est revenu un soir avec un formulaire de l'armée.
Oui.
Et là, tout ce que son jeune avait à la bouche, c'est « Oui, mais papa, c'est 55 000 $, je vais voyager et tout. »
Oui, c'est ça.
Et ça a été extrêmement dur pour
son
jeune qui n'aimait pas tellement l'école et tout. Donc, ces recruteurs-là ont mis le pied dans nos écoles, et vous l'évoquez, non seulement primaire, mais même à la maternelle. Il y a eu récemment l'occasion du centenaire de la marine canadienne.
Oui.
Sur le site de la marine, on proposait du matériel pédagogique aux enseignants de maternelle pour supposément initier les enfants aux réalités, etc.
Donc, vous ne tournez pas de ce côté-là, vous avez comment...
Pas du tout. Alors, la coalition est très active, le collectif appuie ça.
Oui.
Je peux vous dire qu'au moment où on se parle, il y a au moins une douzaine de cégeps qui ont adopté des propositions de l'Assemblée générale pour empêcher les recruteurs d'utiliser les cégeps comme base. La même chose du côté des... Ici, l'association étudiante au cégep a une position contre les recruteurs. Donc, il y a une action très, très vigoureuse qui se mène. Il y a aussi la Marche mondiale des femmes qui a porté cette revendication avec la Fédération des femmes du Québec. Et non, effectivement, c'est
vous nous assurez,
sérieux.
Vous nous assurez qu'il y a un travail de votre côté, c'est ça?
Tout à fait. Oui. Et j'invite, si je peux me permettre, tous les parents à l'écoute à être très, très, très vigilants sur la façon dont l'armée a peut-être ciblé leur école pour débarquer un bon matin. Et les parents ont des lieux, le conseil d'établissement, par exemple, dans les écoles primaires ou secondaires, ont des lieux pour faire entendre leur parole et forcer. C'est nos écoles. Ce sont nos taxes scolaires, ce sont nos écoles.
Vous êtes en train de nous dire aussi que les parents, ils ont une responsabilité aussi envers tout ça aussi.
Ben, c'est-à-dire que oui, d'agir. Parce que si on les laisse faire, croyez-moi qu'ils vont... en prendre large.
Monsieur Charlemieux, j'aurais peut-être aussi, si vous me permettez, une dernière ou une avant-dernière question. Déjà, on parle d'une prolongation envisagée des troupes canadiennes en Afghanistan. Donc, et d'ailleurs, on le savait, mais le gouvernement Harper change de discours pour convaincre le peuple canadien et le peuple québécois. La prolongation de 3 ans qui annulera le retrait de l'armée canadienne prévu en juillet 2010 prévoit transformer ces missions de combat en missions humanitaire. Est-ce que nous sommes devenus un peuple idiot et ignorant à ce point pour recevoir un tel discours?
Je dirais que non. Et la raison pour laquelle je dis qu'on n'est pas un peuple ni idiot ni ignorant, c'est que tous les sondages d'opinion depuis les dernières années confirment que la vaste majorité des Québécois et Québécoises s'opposent à cette guerre-là. Ils voient clair dans tout ça. Ce que vous dites, toutefois, c'est vrai que ça fait partie, je dirais, de l'arsenal, pour prendre un langage du monde militaire, mais de l'arsenal idéologique de ceux qui cherchent à nous convaincre qu'ils mènent la guerre pour le bien de l'humanité. Et ce que vous évoquez, au collectif, on voyait venir cet élément-là de l'argumentaire, c'est-à-dire que ça ne soit pas une mission militaire, mais humanitaire. Alors, ça rejoint donc cette question qu'on évoquait tout à l'heure quand on parlait de l'Afghanistan, c'est-à-dire cette idée que les puissances occidentales doivent intervenir pour des motifs humanitaires à l'étranger. Bon, d'une part, il faut le dire vite, humanitaire, là, parce qu'on ajoute aussi à ça un volet de formation. Alors, ce matin, moi, le chiffre que j'ai vu, on parlait de 600 militaires, mais peut-être même plus de 1000. Alors, d'une part, mais ce que ça, sur le fond, ça change strictement rien. C'est-à-dire que le Canada ou le gouvernement Harper est en train de nous dire ben le Canada va rester présent en Afghanistan. Donc sur le fond, ça changera sûrement, certainement pas les revendications du collectif et du mouvement anti-guerre à l'effet d'exiger un retrait immédiat de toutes les troupes là-bas. Et cet argument-là de mission humanitaire, on nous le sert pour l'Afghanistan.
Oui.
Et nous, ce qu'on dit, c'est que ça va faire partie de l'arsenal pour nous le servir à l'avenir.
Oui, hein?
C'est-à-dire que ces puissances-là ont les moyens de créer des situations dans toutes sortes de pays, de créer de l'instabilité et tout ça, et ensuite de justifier leur intervention. Et à l'ONU, ça a pris des proportions extrêmement importantes, ce débat-là. Jean Bricmont, qui est notre conférencier d'ouverture, a été invité il y a quelques années par le président de l'Assemblée générale à l'ONU à intervenir sur cette question-là qu'on appelle la responsabilité de protéger.
Oui.
C'est-à-dire qu'on institutionnaliserait ce droit d'intervention, d'ingérence humanitaire.
Oui.
Et c'est extrêmement dangereux parce que ça pourrait évidemment être utilisé par les grandes puissances pour justifier des agressions sous couvert de motifs humanitaires, comme on l'a vu en Afghanistan.
Oui.
Donc, pour nous, ça ne change pas le fond de l'affaire. Mais c'est sûr que le gouvernement va tenter de, comme on dit, de faire du pouce sur cette idée d'un Canada pacifique et tout, alors qu'on sait que depuis les 20 dernières années, le virage militariste a été très, très, très bien engagé.
Monsieur Charles Lemieux, peut-être pour vous demander, avant de demander de, si vous avez un message à passer au public québécois, je veux juste me corriger. Quand j'ai dit qu'idiots et ignorants, ne le sont pas, ne sont pas des idiots ignorants, justement, mais comment, c'est la question, comment le gouvernement canadien arrive à nous lancer ça dans plein visage comme ça, il a le courage de le dire, quoi. C'est ça ce que je voulais dire.
Ouais,
mais
ça montre
il a trouvé la capacité de le dire.
Mais si vous me permettez, monsieur, ça montre aussi, si vous avez vu hier dans les dépêches, là,
oui.
On annonçait, alors Mekki, on annonçait cette prolongation,
oui.
Et qui était cité comme un intervenant qui trouvait que c'était absolument une bonne idée?
Oui.
John Manley.
Oui.
John Manley, c'est le président, l'ancien président du supposé groupe d'experts indépendants sur la mission en Afghanistan,
oui.
Qui avait recommandé, en fait, lui, c'était presque une mission à perpétuité. Et qui est-il devenu ce
président aujourd'hui? Oui.
Ben, il est le chef de la direction du Conseil canadien des chefs d'entreprise.
Voilà.
Hein? Et donc, oui. Il parle pour les gens qui ont intérêt à continuer à prendre la population pour essayer de nous faire passer ces histoires-là, alors que dans le fond, ça sert les intérêts de ces gens-là qui ont dominé ces guerres partout sur la planète.
Avez-vous un message
Le message, ce serait, écoutez, sur le site du collectif www.échecalaguerresansaccent.org, vous avez la programmation du sommet, qui sera une occasion de discuter plus et plus de ces questions qu'on évoque aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez aussi lancer une invitation à tout le monde de participer au sommet?
Ben, tout à fait. Alors, le vendredi, la conférence d'ouverture. 19, 20, 21 novembre.
Oui.
Alors, bienvenue à tout le monde. Et puis, voilà. Alors, il faut continuer la lutte.
Le combat. Merci
voilà.
Bien, c'est le mieux.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Permettez-moi de remercier nos deux participants, Madame Aminata Traoré et Monsieur Charles Lemieux, pour leur éclairage bien reçu. Je remercie ma collègue Marion Languet, qui est toujours à l'heure pour le côté technique et le son. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission et je vous inviterai de participer. À moi, je vous dis à vendredi prochain à la même heure et merci.
encore, même cassé, ivre mort.
Vous rêvez de palmiers, de chaises longues? Ne cherchez plus! L'ATSA vous invite à son événement tout inclus de l'état d'urgence ultime édition. Du 25 au 28 novembre, 24 heures sur 24, sur la place Émilie-Gamelin, métro Berry, profitez de nos forfaits artistiques, dont une soirée avec les Sept Doigts de la Main et l'Orchestre d'Hommes Orchestres. Gentils auditeurs, rejoignez-nous sur www.atsa.qc.ca et sur Facebook. Du 25 au 28 novembre, nos gentils organisateurs vous attendent avec des activités gratuites dont personne ne sera exclu.
Le projet ABC d'art présente sa 4e édition. Collecte de fonds pour la Maison des enfants du 11 au 13 novembre à la Maison de la culture Maisonneuve. Vernissage jeudi le 11 novembre à 19h et la journée en art le 13 novembre à 13h. On vous attend donc du 11 au 13 novembre pour ABC d'art à la Maison de la culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario Est. Information 450-882-3904 ou sur abcdart.ca.
Arts Notebook. Avec Stan Asher et copilote Davin Ryle, votre départ vous attend chaque samedi matin à destination de la scène locale de théâtre anglais avec escale au film, au festival culturel, le calendrier des activités culturelles et également les critiques de ce qui se joue sur les scènes locales. Tout le monde à bord les samedis de 11h30 à 12h30 avec Arts Notebook.
Depuis 35 ans, nous représentons la diversité. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.